L'enquête de terrain, de toute façon, c'est nécessaire et, parce que sinon, on risque d'avoir tendance à projeter nos propres, encore une fois, nos propres catégories de pensée sur les gens. Et là, on se rend compte, voilà, en interrogeant les gens directement, que bah, ils sont dans des situations, ils sont dans des configurations, des états d'esprit très différents, en fait.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Sophie Orange, enseignante-chercheuse en sociologie à l'Université de Nantes, co-auteur avec Romuald Baudin de L'Université n'est pas en crise, paru aux éditions du Croquant, et auteur de L'autre enseignement supérieur, paru aux presses universitaires de France. Sophie Orange est intervenue dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « L'université est-elle en crise ?»
Vous
destinée à quoi ?
Destinée de quoi ?
Bah, une meilleure vie déjà. Retrouver du travail.
Vous n'avez pas de travail ?
Enfin, moi, j'ai perdu mon travail.
Vous ne trouvez pas ?
Oui, on ne trouve pas, oui.
Vous avez fini vos études il y a longtemps ?
Oui, moi, j'ai fini ma formation, j'ai cherché du travail, j'ai
trouvé. Et c'est quoi comme études ?
22 ans prêt-à-porter.
Ouais.
Oui, et je n'ai pas trouvé encore.
Vous n'avez pas trouvé ?
Oui.
Et c'est quoi ? C'est qu'ils ne recherchent pas de...
Ah, je ne sais pas, ils ne me répondent pas, je crois, parce que je n'ai pas pris un diplôme, j'ai pris juste une attestation.
Oui.
Attestation, et je voudrais... Un jour, je vais faire un diplôme en ventre,
oui.
Formation qualifiante,
oui.
En ventre.
Oui,
vous
oui.
pensez que l'obtention
pour
du diplôme...
Oui, moi je pense pour je crois le travail, il faut le diplôme pour travailler, quoi, surtout en France.
Oui,
parce que j'ai déjà travaillé au Maroc, et,
oui.
et si on ne trouve pas... Oui. Mon mari, il était conducteur de bus.
Et pour, maintenant
on a failli perdre la petite, et du coup, moi j'ai oublié de passer ma visite médicale, donc du coup, à la fin...
Ah, sorti comme ça.
Et juste parce que vous n'avez pas passé votre service,
oui,
votre visite médicale, vous avez...
J'étais encore en période d'essai, c'était un an, et en conducteur de bus, la période d'essai, c'est un an avant d'être titulaire. Et moi, ça faisait 7 mois que j'étais chez eux, et ça n'est pas passé. Quoi. Donc du coup, après, bah, j'avais postulé à passer les tests, les entretiens, mais ça n'a rien donné. Quoi.
Ouais.
Au final, non. C'est... Et après, bah, là, je vais me réorienter, je vais faire une formation, je pense, au mois de septembre. Dans le bâtiment, vu que j'étais dans
oui,
le
parce
domaine aussi du
y
bâtiment.
Il y a du travail dans le bâtiment à Nantes et tout.
Oui.
C'est mieux qu'ils changent de conducteur, c'est mieux pour qu'ils trouvent. Ça fait presque un an maintenant qu'ils cherchent, qu'ils ne
oui.
trouvent pas. Moi, ça fait pas longtemps que je cherche, ça fait un mois que je cherche. Mais mon mari, ça fait oui.
Il y a beaucoup de demandes pour peu de postes à pourvoir.
Ça bloque, après, je sais pas, après, c'est mon avis personnel. Je pense que ça bloque au niveau des sélections aussi. Déjà, quand il y a plusieurs candidatures, les personnes doivent automatiquement faire le tri entre les personnes qui correspondent plus ou moins au profil. Et après, bah, ils font une série de tests et le meilleur l'emporte, quoi. Comme dans le sport, le meilleur qui l'emporte.
Celui qui est le meilleur, c'est celui qui a le plus de diplômes, c'est celui
après,
qui...
Je pense pas que les diplômes favorisent l'emploi, je pense plus c'est l'expérience et
ouais.
la façon de la personne de donner ses motivations.
Et le bâtiment, c'est difficile
J'étais dedans en fait avant,
ouais.
en fait, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie en fait, si vous voulez, j'étais au lycée, après le lycée j'ai fait un petit peu des centres d'appel, parce qu'après voilà, c'est certaines personnes qui sont faites plus ou moins pour les études et d'autres pas. Donc du coup, après ça, les centres d'appel, après je suis parti à l'armée. Avant de faire l'armée, j'ai fait du bâtiment.
Ouais.
Et après, je suis rentré à l'armée parce que c'était un métier qui me plaisait. Et en fait, si j'ai arrêté l'armée, c'est parce que ma section devait partir en Afghanistan. Et j'ai pas voulu y aller, quoi. Simplement. Donc,
ouais.
Donc j'ai préféré m'arrêter. Et voilà. Puis même, je voyais ma mère qui était triste à l'idée de savoir que je partais en Afghanistan. Et elle voulait pas que je revienne avec un drapeau ou... Donc elle m'a demandé si je pouvais arrêter et j'étais un petit peu déçu parce que l'armée c'était un métier qui me passionnait et je voulais vraiment grimper les échelons quoi, je voulais rentrer dans les commandos, enfin les forces spéciales et le destin en a voulu autrement quoi. Donc mais on s'accroche et on est toujours là et puis un jour on va trouver du travail quoi. Faut persévérer voilà, faut persévérer et attendre, enfin patienter et un jour ça finit toujours par payer quoi.
Et vous habitez
on habite à Nantes et le loyer était trop cher par rapport au chômage que j'avais. Et donc du coup, on a dû rendre l'appartement et là, on a dû faire un énorme sacrifice. On a emmené nos enfants au Maroc et chez ma belle-mère, donc la mère de ma femme. Et du coup, on a été hébergés chez un ami et parce que sa copine était en vacances. Et du coup, comme là, elle est revenue, il nous garde les affaires. Il nous dit qu'on peut venir chez lui quoi, pour se laver ou des choses comme ça. Mais entre-temps, moi et ma femme, on dort dans la voiture et... Et du coup, après, on fait des démarches, mais ils nous disent tous c'est long, ou bien faut courir là, faut courir ci. Et c'est ça qui est dommage, quoi.
Et vous ne pensez pas retourner aller au Maroc du coup
J'ai mon billet, il y a ma famille qui m'a payé le billet et tout, oui.
Pour être avec vos enfants, oui.
Au Maroc, oui, parce que je viens juste terminer ma formation. Oui. J'étais obligée, je ne peux pas les
Mais
enfants
votre but,
qui
c'est pas...
vivent
bah oui, bien
à la
sûr,
voiture,
bah...
c'est... Oui. C'est pas mes enfants, oui. Je peux pas avoir mes enfants, ni moi, ni mon mari, on peut pas voir nos enfants à la voiture. Et ils sont pas habitués comme ça à la voiture. Ouais, non, on est grand, on peut, peut, oui.
Oui, enfin,
on n'a pas le choix, oui. Mais les enfants, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Il y a le petit, il a 2 ans. Il a un an maintenant, mais moi, je l'ai pas vu son anniversaire, oui. Maintenant, il a 1 an, oui. Mais ça va se passer, oui. On est parti.
Le but, c'est de rester là, trouver du boulot et puis les faire revenir après.
Voilà, c'est ça. On va rester à Nantes
c'est
maintenant.
Oui,
ah, oui, non, parce qu'on aime vraiment Nantes au début.
Oui.
Bah, au début, je ne vous cache pas dès qu'il nous arrivait ces problèmes-là, on commençait à plus apprécier Nantes. On s'est dit pourquoi on a fait la bêtise. Et bah, un jour après, on s'est promené dans Nantes et on a vu vraiment ce qu'était Nantes en vrai. Donc la ville nous a plu et on compte rester à Nantes, quoi.
C'est une grande fille, il y a beaucoup de travail, tout aussi, oui, on peut trouver.
Mais ça vous oblige
quelque...
à beaucoup de,
travail,
de difficultés,
pas... oui,
d'être éloigné de vos enfants qui sont tout petits. Et tout,
et... Bah, à cause de l'appartement,
et puis
on ne peut
dans
pas
une
trouver.
Voiture,
tout,
oui.
Ouais.
Et le fait de vivre cette situation difficile, vous pensez que ça a un impact sur votre motivation ou au contraire ça vous donne un ressort supplémentaire?
Au contraire, moi ça me donne vraiment de la force. Oui, quand je vous ai dit, après j'ai postulé à Rennes, depuis le mois de janvier j'étais avec eux pour passer les tests et donc du coup j'ai fait les tests, je les ai réussis, je révisais pour obtenir l'examen. Après j'ai passé nombre d'entretiens, cabinet extérieur, après au recrutement au sein de l'entreprise et à la fin ils m'ont dit qu'ils ont préféré prendre d'autres candidatures. Peut-être, je pense, le fait que j'habite à Nantes, que je sois sur Nantes et que c'est Rennes, ils ont peut-être privilégié des gens qui habitaient sur Rennes et voilà, donc moi après j'étais fixé sur ça, mais non moi au contraire ça me motive plus et ça me donne plus la force de me battre et de m'accrocher, quoi, parce qu'on n'a rien sans rien. Je préfère me battre et avancer, essayer d'avancer, que de laisser la situation comme telle. Et après la personne elle-même à l'intérieur, moralement et même physiquement, voire physiquement, démoralise et elle peut tout perdre, quoi. Donc non, moi je préfère m'accrocher et un jour ça changera, quoi.
Mais vous n'avez pas l'impression, que c'est pas, je veux dire, c'est pas que de votre ressort, quoi. Je veux dire, vous aurez et que quand même les choses, elles sont quand même pas très bien faites et que on fait pas tout pour vous aider. Enfin, voilà, que la façon dont le système fonctionne, vous êtes pas beaucoup. Enfin, voilà, pour que vous soyez dans cette situation-là.
Après, je pense qu'il faut aller la chercher. Si on reste si on reste à rien faire, c'est sûr que, les gens vont pas savoir dans quelle situation on est. Donc, on a fait les démarches nécessaires et après, après c'est l'attente, comme je vous ai dit. Il faut être patient.
Il y a beaucoup de temps pour il faut qu'on attende. On a un assistante sociale et tout, mais c'est long.
Ouais,
c'est,
sûr,
long.
C'est long. Oui.
Et comme les petits, elle va rentrer à l'école et tout, il faut que tous les. Elle n'a pas d'adresse.
Ouais.
Il y a juste. Ils ont dit. Aujourd'hui,
c'est
CAS. CAS, oui. Je ne sais pas le dire bien.
Oui. Mais vous pensez quand même les faire revenir bientôt?
Ah oui.
C'est
pour ça, justement.
Oui, j'imagine, bien sûr.
C'est pour ça qu'on a la force de parler, qu'on est en entretien ou quelque chose, on peut parler parce que il faut les enfants qui viennent et tout, oui.
Dans ces parcours pour obtenir un poste de travail, est-ce que vous pensez qu'on vous en demande beaucoup trop, beaucoup plus qu'il faudrait?
C'est vrai que si, dans le métier de conducteur de bus, pour rentrer dans une entreprise de transport en commun, vraiment il y a beaucoup de sélections pour accéder au poste, alors qu'il il suffit d'avoir le permis, d'avoir de l'expérience. L'embauche est vraiment très longue. Après, pour les autres emplois, je pourrais pas vous dire, il y en a qui se contentent juste de passer des entretiens, des petits tests de sélection et ça s'arrête là. Donc après, ça varie selon le poste, je pense.
Bon courage.
Merci beaucoup à vous aussi.
Vos enquêtes, vous êtes tombé sur des parcours comme ça?
Oui, on tombe sur des parcours très différents et c'est vrai qu'on est confronté parfois à des situations assez difficiles où on se sent un peu démuni, un peu ennuyé parce qu'on ne peut pas faire grand-chose et puis on se sent un peu parfois un peu indiscret, un peu voyeur aussi, parce que voilà, on est parfois confronté à des situations personnelles, intimes, voilà, qui nous posent question et on se demande si, voilà, si, quel est notre rôle et à quoi ça sert, enfin, ce qu'on fait. Donc c'est, après, c'est bien aussi d'avoir, enfin voilà, nous, notre rôle après, ce qu'on peut faire concrètement, c'est de raconter aussi ces réalités-là, c'est de dire que ça existe, hein, on ne peut pas agir dessus directement, mais en tout cas, les mettre au jour, les analyser, faire en sorte aussi de montrer que bah, ces situations-là, elles ne sont pas vécues par n'importe qui, n'importe comment, mais qu'elles sont quand même liées, enfin voilà, des origines sociales particulières, et que c'est souvent effectivement les mêmes types de personnes qui sont dans la difficulté, et que c'est pas forcément de leur faute en tout cas, mais le fonctionnement des institutions est tel que certaines personnes vont se trouver plus en difficulté pour s'en sortir, pour trouver du travail, pour décoder la façon dont fonctionnent les administrations, etc. Donc voilà, nous c'est un peu ça, quoi. Ce travail de dévoilement, de désenchantement du monde, etc. Et puis et de montrer que voilà, que les situations, elles ne sont pas liées à des volontés individuelles des gens, enfin voilà, ou qui se seraient mal pris, ou qui auraient fait des erreurs, mais qu'il y a des configurations sociales qui créent ces situations de précarité ou de difficulté.
À partir de combien de témoignages de cet ordre, on peut en extraire quelque chose ?
C'est difficile à dire. Au bout d'un moment, il va y avoir des formes de redondance aussi et de régularité qui vont apparaître. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse en tant que sociologue, mettre en évidence des régularités. Après, là, on a sélectionné un peu au hasard. Alors, il y a un biais de recrutement quand même de nos enquêtés, là. Mais en tout cas, pour faire un travail sérieux de sociologie, il faudrait vraiment travailler d'abord la question de l'échantillon sur lequel on travaille, quoi, et bien construire le panel qu'on va interroger. Mais plus on aura de témoignages, moins on aura de chances de dire des bêtises et de tomber sur des cas particuliers, même si les cas particuliers sont très intéressants et puis sont des cas réels. Mais voilà, ce qui intéresse le sociologue, enfin moi ce qui m'intéresse, c'est quand même ces grandes régularités sociales qui nous disent bien que c'est pas uniquement des phénomènes psychologiques ou liés à l'individu qui se jouent, mais c'est bien des phénomènes sociaux, quoi, des phénomènes collectifs, des processus collectifs qui ont lieu, parce que sinon, voilà, on n'observerait pas ces telles régularités.
Et comment on juge de l'authenticité du témoignage ?
Quand on fait des entretiens avec des gens, on essaie de faire des entretiens plutôt longs, en fait, pour pouvoir libérer la parole aussi au bout d'un moment. C'est vrai que quand on parle, enfin là, moi, je suis interviewée et je me contrôle, je dis pas tout. Enfin voilà, j'essaie de... Oui, bah, ne me regardez pas comme ça. Je fais attention à ce que je dis et donc je livre pas forcément tout et j'essaie de construire bien ma parole, mais au fur et à mesure qu'on discute avec les gens sur le temps long, bon bah il y a certaines barrières qui vont un peu tomber, donc le discours aussi va être peut-être plus précis, va confirmer ou infirmer des choses qui ont pu être dites au départ. Voilà, on va pouvoir déceler des incohérences ou au contraire des cohérences dans le discours. Et puis surtout, ce qui est important en fait, c'est d'interroger les personnes sur des pratiques très concrètes. En fait, ça, c'est ce qu'on en enseigne aux étudiants de sociologie. C'est pour avoir des faits, il faut vraiment interroger les gens sur des pratiques, sur ce qu'ils ont fait, sur des anecdotes précises, qu'ils racontent des choses très précisément. Et à ce moment-là, on aura plus de chances d'être près de la vérité que si on reste dans des discours très généraux, une parole très générale et de représentation.
Avec la complicité de l'UMA Café de Nantes, nous accompagnons dans la rue Sophie Orange, enseignante-chercheuse en sociologie à l'Université de Nantes.
qu'est-ce que je pourrais dire de mes recherches? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'orientation dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est quelque chose qui m'a donc intéressée dès le travail de thèse sur les BTS. Sur les étudiants qui sont orientés en BTS. Et voilà, ces processus de distribution, en fait, des individus dans des formations en lien avec leurs caractéristiques sociales et scolaires qui sont liées, hein, toutes les deux. Et un peu contredire l'idée du libre choix, en fait, dont on parle souvent au sortir du baccalauréat. Voilà, chaque individu est libre de faire son propre choix. Et moi, ce que j'essaie de montrer, j'essaie de déconstruire un peu ça et de montrer que il y a une relative liberté du choix d'orientation et du choix des études, et que ces choix, ils sont largement contraints par l'origine sociale, la socialisation, etc. Et aussi par l'institution scolaire, son mode de fonctionnement qui va trier, distribuer, aiguiller les élèves au fur et à mesure du cursus dans certaines classes qui vont ensuite orienter vers tel type de filière et les éloigner d'autres, etc. Voilà, moi c'est ça en fait qui m'intéresse et qui est un peu le centre de mon travail.
Vous auriez pu vous auto-analyser?
Je fais partie de ces individus sur lesquels le principe de reproduction sociale fonctionne très très bien. Mes parents ont fait des études supérieures, ils sont enseignants à l'université. J'ai tout fait pour pas faire comme eux. Et finalement, je me retrouve enseignante à l'université, presque dans la même discipline qu'eux, parce qu'ils sont en sciences de l'éducation. Moi, je suis en sociologie de l'éducation. Mais voilà, on est vraiment dans ce processus de reproduction sociale. Et effectivement, moi, je sais que il y a des études qui étaient...
Mon petit papier, mais bon, si je le retrouve pas... Mais...
Ah, voilà.
Merci, monsieur.
Pas de souci.
Ah, oui. Note.
J'ai commencé à lire, j'ai
votre
pas
prénom.
Compris.
Ah,
Marin.
Ça m'intéresse. Marin ne comprend pas, mais c'est parce que c'est le...
Je me suis dit que c'était des notes de quelqu'un qui écrit vite. Après, vous avez vu que le truc pour enregistrer, je me suis dit que ça devait être à vous.
C'est l'écriture ou les intitulés que
je sais pas, comprendre. Tout. J'écris très mal, mais je lis même pas les écritures comme ça.
Qu'est-ce que vous comprenez dans favoriser une réelle accession sociale en agissant pour l'inclusion?
En fait, rien. Non, à peu près rien.
Vous êtes étudiant?
Je suis au lycée, j'ai 16 ans. Je fais pas 16 ans, je sais.
Non, pas du tout.
Vous aspirez à quoi?
J'aspire à être photoreporter.
Et dans votre famille, vous avez des photoreporters?
Pas du tout. J'ai un chanteur d'opéra et un responsable de salle de spectacle, un centre culturel plutôt. Voilà. Donc, non, pas du tout. Et vous m'enregistrez pourquoi? Mais sinon, non, j'ai aucune option particulière.
Et les cours sont terminés?
Malheureusement, non. J'en ai plus qu'envie. C'est un besoin même. Et non, les cours, ils se terminent le 8 juin.
Et là, vous aviez pas cours aujourd'hui?
Malheureusement, si. Mais j'ai séché là cet après-midi pour aller au lycée de Bretagne pour prendre rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous pour savoir si je vais y être accepté ou pas. Enfin, j'y suis accepté, mais pour savoir si je vais y aller ou pas l'an prochain. Parce que j'ai du mal avec le système ordinaire, disons, pour pas dire normal, et pour pas dire chiant non plus. Du coup, voilà, j'essaye avec d'autres lycées, peut-être le lycée expérimental de Saint-Nazaire, sinon, ou le lycée alternatif de Saint-Nazaire, ou le lycée de Bretagne. Je suis entre trois trucs, je me questionne.
Et qu'est-ce qui vous plaît pas dans le système normal?
Ce qui me plaît pas dans le système normal, à peu près tout.
Ouais.
Ce serait plus rapide de dire ce qui me plaît, du coup, je dirais rien, mais...
Finalement, les deux sont rapides.
Les deux sont rapides. Non, qu'est-ce qui me plaît pas? Rester assis des heures sur une chaise. Hier, par exemple, j'avais une journée de 8 heures de cours. Mmh. 8 heures assis sur une chaise à écouter des choses qui ne m'intéressent pas. Je sais pas, si on compare au système canadien, moi j'ai passé 3 mois au Canada et c'est complètement différent en fait. Là-bas, ils finissent les cours à 15 heures, ils commencent à 9 heures. Moi, en moyenne, c'est 9 heures, 18 heures. Mais il y a quand même un réel écart. Je sais pas, il n'y a aucune proximité avec les profs.
Merci à Sophie Orange, auteure de L'autre enseignement supérieur paru aux Presses universitaires de France. Merci au couple Resté Anonyme et à Marin pour leur libre participation à ce reportage réalisé dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.